Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour, la Calade, le Beaujolais, le Val-de-Saône. Je vous souhaite en forme aujourd'hui, en forme de ce que vous voulez, tant que ça vous rend heureux et heureuse. Nous sommes le mercredi 28 septembre 2022. Il fait un bon temps d'automne dans l'ensemble du département du Rhône et de l'Ain. Les températures sont autour de 15 degrés et on attend des averses jusqu'à demain matin à peu près. Voilà pour la météo. Dans notre émission, nous allons faire un tour en cuisine avec Najat Guidoum. On va parler plantes sauvages certainement avec Gabriel Caramana. Et enfin, on retrouve le prof Patrick en fin d'émission pour une rubrique économique et sociale. Avant ça, eh bien, nous accueillerons notre invité du jour. Il s'agit de Christian Dubourg, l'un des organisateurs du festival Festifil en Beaujolais qui aura lieu ce dimanche 2 octobre à Salle Arbussona. Festival autour de trois thèmes, la couture, la nature et la culture. On va faire le tour du programme ensemble et puis on va se demander pourquoi cette thématique originale de la couture en Beaujolais. Il nous répondra dans quelques minutes. On commence d'abord en musique, on écoute Synapson avec un morceau qui s'appelle Haute Couture. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Haute Couture. Je me sens toujours trop obligée et qu'elle ne me sent jamais assez élégante. Pas de style en France. Il n'est pas une mode si personne n'a voir. Haute couture.
Synapson qu'on vient d'entendre sur Calade avec un morceau qui s'appelait Haute Couture.
Ensemble sur Calade.
Allez, il est l'heure d'accueillir notre invité du jour. C'est Christian Dubourg qui est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation pour vous parler de notre Festifil.
Merci d'être venu nous voir. On va parler effectivement de ce fameux Festifil en Beaujolais. Ça va être la première édition dimanche qui vient, dimanche 2 octobre. En quelques mots, allez, si on devait résumer en une phrase ou deux le Festifil, comment est-ce que vous vous y prendriez ?
Alors déjà, ce Festifil, c'est l'occasion pour tous nos amis de Lyon, de Mâcon et d'ailleurs, de venir passer une journée, un beau dimanche en Beaujolais. Il devrait faire beau, soleil, peut-être un peu de pluie, et donc de profiter d'une journée avec plusieurs activités. La nature, bah oui, c'est beau les vignes en ce moment, il faut venir voir. La couture, vous verrez que là, ça ressemble pas mal à la nature. Et la culture, parce qu'on a la chance à Salaire-Buissonnat d'avoir un prieuré splendide clunisien avec un cloître magnifique et une exposition temporelle qui est absolument adaptée à la couture puisqu'il y a des plantes médicinales et tinctoriales.
Très bien. Donc, le programme est bien rempli, déjà, en quelques mots. Le festival, il est organisé par une association en particulier. Vous pouvez nous en dire un petit mot. C'est quoi cet asso ?
Oui, donc l'association qui a été créée en 2012 à Salaire-Buissonnat en Beaujolais s'appelle Les Fenêtres du Chapitre de Salles. Elle a pour objectif de valoriser toutes les activités culturelles de la nature de notre magnifique village pour faire connaître en fait ces merveilles du Beaujolais. On est quand même sur un site extrêmement beau et je vous invite à venir le découvrir dimanche justement pour vous en rendre compte.
Et ce nom, Les Fenêtres du Chapitre de Salles, ça veut dire, ça raconte quoi ?
Alors, les fenêtres du chapitre. Pourquoi le chapitre ? Parce qu'on a un chapitre à Salles, donc c'est un site clunisien sur lequel il y a des maisons de moniales qui ont été construites dans les années 1750, puis ensuite, suite à la Révolution française, qui ont été revendues. Et donc, ces maisons forment un chapitre, le chapitre des moniales de Salles, des chanoinesses de Salles. Et la mairie se trouve sur ce chapitre et a des fenêtres. Et donc, notre association valorise en fait l'ensemble des travaux réalisés par la mairie, et donc, d'où le nom, les fenêtres du chapitre. Chapitre de Salles.
Donc, une association qui met en avant la localité, le Beaujolais et ce qui se passe autour de Salaire-Buissonnat. C'est de là que vient l'envie de créer un festival, justement ?
Oui, on essayait, en fait, depuis plusieurs années, de trouver un rythme pour notre association, pour valoriser davantage, en fait, notre village. Et le fait, en fait, de s'intéresser à la couture et à la nature et à la culture, former un tout complètement homogène que l'on a souhaité proposer cette année sur une journée et l'an prochain certainement sur deux journées.
J'ai pas compris la couture. C'est une question qui m'a interpellé. La couture à Salaire-Buissonnat est quelque chose de particulier ou c'est...
Alors, vous savez qu'on est quand même dans une région, c'est vrai, qui a hautement utilisé la couture, ne serait-ce que sur le Beaujolais ou à Tarare ou à d'autres endroits. Et le Beaujolais, finalement, c'est un patchwork. Et ce patchwork-là, en fait, il met en avant tout ce qu'on peut voir dans ce Beaujolais très riche. Et donc, l'objectif de cette couture, c'est de montrer ce patchwork Beaujolais au travers des artisans qui viennent de notre région pour valoriser leur savoir-faire et montrer comment est-ce qu'ils sont en mesure d'apporter, en fait, par leur création, de merveilleuses confections. Donc je vous invite à venir voir les créations de patchwork, de broderie tout ce qui tourne autour du fil.
Ouais. Donc il y a différents artisans qui vont venir, qui exposeront. Ça sera une grosse partie du festival, on peut dire, le salon d'exposants.
Oui, alors dans la salle des fêtes donc de la commune, qui est une jolie salle en pierre dorée, vous avez un ensemble d'exposants, une trentaine d'exposants qui seront présents pour en effet exposer leurs créations qui seront également ici pour valoriser les tissus locaux. Et puis l'objectif, c'est de trouver un endroit où on puisse s'abriter en cas de pluie, et la salle est tout à fait bien adaptée, bien entendu, mais ce n'est pas le seul endroit. On verra qu'il y a d'autres endroits prévus pour une visite complète et un déjeuner également dans ce beau village.
Ouais. Et puisqu'on est autour des créateurs, il y a un jeu pour enfants qui est organisé toute la journée. Jeu créatif, ça consiste en quoi ?
Oui, alors il y a deux jeux en fait. Il y a sur le salon de la couture, il y a un jeu qui est en fait un jeu dédié aux enfants, accompagné d'un adulte. L'objectif, c'est qu'ils se fassent un autoportrait, leur selfie, mais en tissu. Donc ils vont venir, ils vont avoir une feuille, ils vont avoir des morceaux de tissu, et il va falloir qu'ils fassent leur selfie en tissu. D'accord. Ces selfies-là seront évidemment photographiées, diffusées ensemble, ensuite sur les réseaux, puisque ce seront des selfies, allez, on va dire, presque un métavers de l'enfant. pour être modernes. Et donc, ils pourront promener leur selfie dans les différents réseaux sociaux sans aucune crainte d'être reconnus, bien entendu, puisqu'il s'agira de selfies en tissu qu'ils auront réalisés avec merveille.
Normalement, il n'y a pas trop de risques. Donc ça, c'est pour la partie couture. C'est la partie qui m'a un peu interpellé. On n'en voit pas souvent des festivals autour de la couture. Une partie qu'on a plus l'habitude de voir dans le Beaujolais, c'est de mettre en avant la nature. Parce qu'on a des super paysages. Comment est-ce que vous vous êtes pris, vous, pour justement mettre la nature du Beaujolais en avant ?
Alors, c'est vrai que dans ce village-là, si vous allez sur Salaire-Bussonnat, on est vraiment dans un écrin de nature, presque au bout, finalement, d'une vallée, où se trouve ce prieuré magnifique, entouré de vignes. Et évidemment, on a directement envie de se dire, mais finalement, comment je vais faire pour découvrir davantage les alentours ? Et on a donc demandé à une association qui s'appelle Les Amis Lyonnais des Parcs et Réserves, puisqu'on est en au parc ici, de venir organiser deux randonnées, une randonnée le matin à 10h, une petite boucle dans les vignes, à peu près sur 8 km, et puis une randonnée l'après-midi qui va permettre d'aller découvrir un endroit assez joli, un petit peu sur les hauteurs, qui s'appelle la Roche Folle, qui a en fait permis de découvrir une vue extraordinaire sur un panoramique de l'ensemble de la vallée de la Saône, avec en point de mire l'église de Salaire-Bussonnat et son clocher magnifique. Mmh. Voilà, donc deux randonnées, une à 10h, une à 14h, organisées par l'ALPR, donc une association lyonnaise des parcs et réserves.
Et c'est, ça veut dire qu'on part en groupe avec un guide qui nous emmène et qui nous fait découvrir le paysage, c'est ça ?
Absolument, vous partez donc accompagné d'un guide qui va vous montrer, en fait, qui va vous faire découvrir les lieux. Et bien entendu, lorsque vous rentrerez, et vous aurez la possibilité de vous restaurer gratuitement. Nous vous offrons, bien entendu, des viennoiseries et le verre de l'amitié qui sera proposé à ceux qui voudront randonner avec nous.
Très bien. Et puis, la troisième partie, c'est la culture. J'ai l'impression que c'est une des parties les plus importantes du festival, notamment avec le musée du Prioré, dont vous nous avez déjà bien parlé.
Oui, on a beaucoup de chance, en fait, dans nos communes, puisqu'on a déjà ce musée du Prioré, donc, qui retrace, en fait, la vie des Clunisiens qui sont venus dans notre région, venant de Cluny, bien entendu. Et puis, on a le musée Claude Bernard qui est à Saint-Julien. On a une très belle fresque à Clochemerle, donc pas très loin. Et donc tout ça forme un écosystème très intéressant pour les visiteurs qui peuvent donc venir découvrir le prieuré et toute l'histoire des bénédictines. Hein. Il y a une histoire assez rocambolesque, hein, puisqu'il y avait une île sur la Saône qui s'appelait Grelonge, sur laquelle il y avait des moniales. Et cette île s'est écroulée un jour en, je crois, 1197. Vous me pardonnerez, c'est pas exactement la bonne date, c'est peut-être 1215. Et elles sont venues se réfugier à Salles, et donc c'est ainsi qu'a commencé toute cette histoire de ce prieuré clunisien où des moniales bénédictines sont arrivées un jour et ont pris possession des lieux. Voilà, donc c'est assez sympa à découvrir, et il y a encore un des vestiges de Grelonge qui est exposé au musée, et puis toute cette histoire qui est expliquée. Et puis, ben, évidemment, dans ces temps anciens, les moniales cultivaient énormément de plantes, des plantes tinctoriales, pour faire justement de la teinture, puisqu'elle aussi faisait de l'art textile de leur époque, bien entendu, et puis également des plantes médicinales. Donc il y a deux jardins, le jardin de Marie et le jardin du cloître, qui seront ouverts à la visite et qui permettront, au travers d'un jeu que vous pourrez faire en famille, de rechercher l'élixir de jouvence au travers de quatre indices qu'il faudra trouver lors de votre pèlerinage, si on peut dire ça comme ça, au sein du prieuré de Salaire-Bussonnat en Beaujolais.
D'accord. Et on nous expliquera dans cette visite chaque plante, ce qu'elle fait. Si c'est une plante. Alors, j'ai raté le mot, c'est teintural ?
Tinctorial.
Tinctorial. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. On nous explique quelle couleur ça donne, comment ça fonctionne, etc.
Alors, vous avez un petit jeu qui vous donne des indices. Il y a une visite guidée à 10h le matin. Pendant cette visite guidée, vous aurez des explications, bien entendu. Mais bien entendu, cette balade a lieu toute la journée. Donc, si la visite guidée est passée, vous pourrez quand même retrouver des indices et voir à chaque fois le nom des plantes qui sont exposées, rechercher sur votre smartphone le pourquoi et la bonne raison de la présence de ces plantes-là, par exemple. Et donc, ainsi, vous instruire et vous enrichir, surtout, de toute cette beauté qui a été préparée pour vous par l'agglomération de Villefranche, qui, en fait, est l'organisatrice et responsable des musées, que ce soit soit le musée Claude Bernard à Saint-Julien, où il y a également une exposition de photos de Robert Doisneau sur la médecine, vraiment très intéressante également, à 2 km de Salaire-Bissonnat, où évidemment cette exposition à salle qui sera extrêmement intéressante toute la journée, bien entendu. Et bien entendu, lorsque vous allez venir, vous pourrez à la fois faire une petite rando, et puis peut-être que pour ceux qui n'auront pas envie de faire la rando, passer un petit peu de temps avec vos enfants dans la salle des fêtes pour découvrir ce salon, puis aller voir le prieuré et peut-être prendre un peu de temps pour déjeuner dans le nouveau restaurant La Benoite de Salaire-Bissonnat. Donc une journée en Beaujolais de 9h30 à 18h où vous allez pleinement profiter de notre paysage et de notre richesse du Beaujolais.
Avec plein de choses à faire et du coup de nombreux partenaires, parce que tous les lieux que vous avez cités, tous les lieux qu'on peut aller voir, vous avez travaillé avec eux du coup pour organiser ce programme.
Oui, alors ils nous ont beaucoup aidés. Vous savez, quand on fait une expo, il faut des tables, il faut des grilles, il faut tout un tas de choses. Donc toutes les mairies locales, je pense en particulier à la mairie de Saint-Étienne-des-Ouillères, à la mairie de Le Péréon, à la mairie de Saint-Georges-de-Renens, nous ont apporté leur soutien, leur aide. Le musée Claude Bernard, bien entendu, qui est partenaire, et je vous invite vraiment à aller découvrir ce musée extrêmement intéressant. Et puis le musée du Prieuré, qui ont été également présents pour réaliser cette animation avec nous à nos côtés et nous permettre de nous donner les moyens d'avoir des grilles pour on a également quelques personnes, en particulier la LPR que j'ai citée tout à l'heure, qui viennent vraiment aider l'organisation de cette journée par leur présence, leur connaissance de la nature, des paysages, et également un viticulteur qui vient aussi pour faire marcher la buvette, parce que ça, ils savent bien faire et donc on compte sur eux. Donc un domaine, le domaine Le Fagolet, à vous en Beaujolais, qui vient nous aider également.
Très bien, un festival totalement local, le Festifil en Beaujolais. C'est donc dimanche 2 octobre. Il y a un super site internet festifil-beaujolais.org. On retrouve toutes les infos. Est-ce qu'il faut s'inscrire à certaines activités?
Oui, alors vous pouvez vous inscrire sur les randonnées, c'est important. Sur le site que vous avez cité, en effet, il y a un lien vers la page d'inscription. Vous pouvez simplement passer un petit coup de fil à l'organisateur ou lui envoyer un petit mail. Il n'est pas trop tard, vous avez vraiment jusqu'à samedi soir pour le faire. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez le lien sur le site. Pour le reste, vous pouvez venir librement, tout est gratuit. Alors, il y a pour la randonnée une participation qui est demandée par la LPR, mais pour le reste, que ce soit pour la visite du musée, que ce soit pour la visite du Festifil, c'est gratuit à la fois pour les exposants, mais c'est aussi gratuit pour les visiteurs. Donc, bien entendu, aujourd'hui, les exposants sont tous présents et la salle est pleine, mais on a déjà une liste d'attente pour l'an prochain, et donc ne vous inquiétez pas, votre tour viendra.
Il y aura une deuxième édition. Parfait. Merci beaucoup, Christian Dubourg, d'être venu nous parler de ce festival. Donc, je rappelle, le Festifil en Beaujolais, Festifil, c'est ce 2 octobre.
Merci, merci à tous.
À très bientôt, bonne journée.
Ensemble sur Calade.
Allez, j'ai pas résisté, certains diront que c'est peut-être un peu ringard, mais tant pis, j'ai trouvé un morceau de Philippe Laville, c'était en 1986, elle tricote des pulls pour personne.
Comme tu l'imagines, elle loue un jet, d'où on la branche direct avec Wall Street, d'où elle sauve une holding de la faillite. Ce soir elle dort à Londres ou à Berlin, dans les Hilton du monde flotte son parfum. Des playboys de hasard auront croisé la soie de ses pas noirs sur sa peau bronzée. Yeah. Même François Mitterrand vous dirait d'elle. C'est un Bernard Tapie en Chanel. Mais côté Love Story, je vous demande pardon. Elle tricote des pulls pour personne. Même Margaret Thatcher vous dirait d'elle que c'est une super lady en dentelle. Elle tutoie les taxis, vous voit Elton. Elle tricote des pulls pour personne. Transite du dollar au Mozambique, d'où
elle vend du caviar aux soviétiques. Elle fait Paris-Dakar en solitaire, histoire d'écrire l'histoire à sa manière.
Pardonnez-moi de vous avoir passé ce morceau, mais ça me faisait rire. Philippe Laville, elle tricote des pulls pour personne.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplopusienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, je pense qu'aujourd'hui c'est le moment pour vous faire découvrir le Galinsoga, nommé aussi Galinsoge à petites feuilles, une plante discrète et encore peu connue, mais combien délicate et agréable pour son goût. Elle sera présente jusqu'aux premières gelées de l'hiver. Son nom scientifique est Galinsoga parviflora. C'est une plante originaire d'Amérique du Sud, introduite en France durant le 19e siècle. En Colombie, elle est nommée guasca. C'est un légume emblématique avec lequel on prépare le plat national, l'ajiaco. Le Galinsoga est classé dans la famille des Astéracées, anciennement nommée Composée, cette grande famille dont je vous ai déjà parlé et qui contient près de 22 750 espèces. Je vous donne quelques exemples d'autres plantes de la famille des Astéracées. Les pissenlits, les pâquerettes, les chrysanthèmes, les chardons. C'est une plante présente sur la majeure partie du territoire français, mais quasiment absente du pourtour méditerranéen. Pour son habitat, elle préfère les terrains riches en nutriments et en azote. On la trouve plus facilement dans les jardins potagers, à proximité des cultures maraîchères, souvent aussi au bord des chemins, en sous-bois, là où le sol est riche grâce à l'humus produit par les arbres, et au chemin qui permet de laisser passer la lumière. Le Galinsoga est une plante herbacée qui forme de petites colonies. Sa hauteur varie entre 10 et 50 cm, plus rarement jusqu'à 1 mètre. Son apparence est dressée, puis évasée vers l'extérieur. Ses tiges cylindriques sont ramifiées et portent des feuilles simples, dentées et opposées l'une à l'autre. Mais pour ne pas vous noyer dans les détails botaniques, je vous donne rendez-vous sur le podcast pour y regarder la photo. Vous verrez qu'il est très facile de reconnaître le Galinsoga grâce à ses petites fleurs qui ressemblent à de mini pâquerettes aux pétales blancs disposés de façon irrégulière. Une confusion est possible avec d'autres espèces du même genre, comme le Galinsoga cilié ou Galinsoga quadriradiata, également comestible, mais nettement plus poilu. D'un point de vue médicinal, j'ai peu de choses à vous indiquer, si ce n'est que le Galinsoga est considéré comme plante digestive et qu'elle calmerait les piqûres d'ortie et les inflammations de la peau. Nous voici en cuisine avec le Galinsoga, dont feuilles et fleurs ont un délicieux goût d'artichaut ou de topinambour. Vous pouvez déguster tel quel les jeunes pousses au printemps, dès le mois d'avril, avec juste un peu de sel et un filet d'huile d'olive, ou on mélange dans les salades. La plante entière est comestible et, mis à part les tiges plus âgées qui peuvent parfois devenir filandreuses, vous pouvez cuisiner toute la partie externe du Galinsoga. De nombreuses idées culinaires s'offrent à nous pour donner un caractère particulier à nos plats, comme par exemple en l'intégrant dans une tarte salée. Il suffit de remplir abondamment votre fond de pâte brisée avec du Ganlin Soga cru, feuilles et fleurs, et de couvrir avec un mélange crème, œuf, fromage râpé et assaisonnement, comme un lait de poule pour une quiche, puis de cuire au four à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. On peut imaginer de nombreuses recettes, comme par exemple d'incorporer la plante crue et hachée dans une farce pour en garnir des tomates ou des courgettes à cuire au four, en faire un gratin et même un délicieux pesto. Voilà une plante facile à préparer et tellement agréable à déguster. Pour ceux et celles qui souhaitent se former aux usages des plantes sauvages à proximité d'Amplepuis, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à nos stages d'une semaine pour vous initier à l'ethnobotanique. Le prochain est prévu en octobre, du 10 au 14. Je vous invite à nous contacter pour plus d'informations au 06 52 04 97 67. 06 52 04 97 67. Voilà, je vous dis à très bientôt et vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons avec Ampliflore pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Alimentation, santé.
Ensemble sur Calade.
Allez avec nous en studio, on la retrouve après une petite pause estivale. C'est Nadjet. Salut Nadjet.
Bonjour.
Ça va bien, en forme?
Bien, et vous?
Super, nickel.
Bon, super.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui?
Eh bien, je vous propose un petit déjeuner, le petit déjeuner idéal, le granola maison.
Ok.
Juste avant, Mathieu, savez-vous ce que c'est qu'un petit déjeuner équilibré?
Eh bien, j'imagine qu'il faut un fruit.
Oui.
Des céréales.
Oui.
Un peu de force. Et puis, en général, sur les dessins, ils mettent un petit pot de yaourt, un produit laitier.
Oui, c'est ça. Et une boisson. C'est
et une
ça.
Boisson.
Et bien, vous voyez, vous et le
oui,
savez.
J'ai bien révisé.
Oui. Et bien, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, une boisson, un produit laitier, fromage, yaourt, lait, ce que vous voulez. Mmh. Un produit céréalier, donc des céréales ou du pain, c'est très bien aussi, ouais. Des petites tartines. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit? Un fruit. Et bien, on y va. Moi, je vais vous montrer comme vraiment il est simple de préparer rapidement un bon petit déjeuner. Par contre, il faut le préparer la veille. Hein. Et là, le granola, eh bien, vous verrez que c'est gorgé de fer, de vitamines, de protéines, plein de bonnes choses, justement, pour bien démarrer sa journée. Et on commence par des flocons d'avoine. Donc, ça sera 300 g de flocons d'avoine, 100 g d'amandes effilées, 100 g de raisin sec, une cuillère à café de vanille en poudre, une pincée de sel, 10 centilitres d'eau chaude, 50 g de miel, 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol et c'est facultatif mais c'est bon quand même, 100 g de pépites de chocolat.
Très bien, oui, on peut les mettre, je pense.
Oui. Allez, bien, on va démarrer. On va commencer par préchauffer son four à 150 degrés, thermostat 4-5. Okay. D'accord. Et la recette est très très simple. Vous allez mélanger donc dans un grand saladier les flocons d'avoine, les amandes, les raisins secs, la vanille et le sel. D'accord. Okay. Vous mélangez l'ensemble et dans un autre récipient, dans un bol par exemple, vous mélangerez l'eau chaude, le miel, l'huile. D'accord. Et vous verserez ce mélange sur nos flocons d'avoine.
Ok.
D'accord. On mélange bien, on répartit en fait cette préparation sur une plaque allant au four et vous mettez ça sur une feuille de papier sulfurisé.
Ok.
Donc on étale un petit peu, d'accord. Et vous enfournez 40 minutes, thermostat 4-5, donc à 150 degrés. Et toutes les 10 minutes, Mathieu, vous ouvrirez votre four et vous mélangerez la préparation. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un mélange homogène, un mélange doré, mais qui soit doré de partout.
D'accord. Hein,
voilà. Et au bout de 40 minutes, donc vous ouais. allez sortir en fait votre granola du four, vous allez laisser refroidir un petit peu. Normalement, c'est pas tout collant puisque vous avez mélangé ouais. régulièrement, d'accord. Et il ne vous reste plus, et si vous voulez, hein, plus qu'à y ajouter des petites pépites oui. de chocolat. Alors, si vous mettez des pépites de chocolat, choisissez des pépites de chocolat avec au moins 70% de cacao. Pourquoi?
Mais oui, pourquoi?
Parce que c'est dans le cacao que vous trouverez du fer et du magnésium. D'accord.
Donc, quitte à mettre du chocolat, autant qu'il soit bon pour la santé.
Eh, mais oui, c'est ça. Soit vous dégustez tel quel, et c'est très très bon. Bien doré, c'est vraiment très très bon. Soit on y ajoute du lait, des fruits secs ou des fruits frais.
D'accord.
Vous aimez des petites framboises, de la myrtille par exemple, de la banane, c'est très très bon.
Mais alors moi, j'avais en tête une espèce de biscuit, mais c'est pas ça du tout quand même comme résultat.
Ah non, non, pas du tout. On n'a pas un biscuit, comme je vous disais, comme on mélange très régulièrement. Ouais. En fait, vous avez, comment vous expliquer, du granola, c'est-à-dire des morceaux d'amandes, exactement, caramélisés.
Oui, non, mais granola, c'est malheureusement une marque de biscuits, et c'est pour ça que je pensais à ça.
Et non, eh bien non. Alors, on ne parle pas de cette marque de biscuits-là. Et c'est vraiment un mélange d'amandes, de fruits secs. Donc, on y a mis du miel, c'est ce qui va. Ce qui, du miel et de l'huile, c'est ce qui va rendre votre granola croustillant et bien doré.
Ok, super.
Voilà.
Bon, et donc ça, c'est quelque chose à faire le soir.
La veille, c'est bien. Ouais. Et puis, comme ça, au petit déjeuner.
On est prêt. Merci à ce moment de la veille.
Oui, oui.
Merci beaucoup, Nadjet.
Merci, Mathieu.
Ensemble sur Calade.
Allez, après cette recette de granola pour le petit déjeuner, on va écouter un morceau de Aaron Taylor. Ça s'appelle Breakfast. On reste dans le petit déjeuner.
Get up and make me breakfast.
You ain't gotta make me breakfast in the morning. But I like it if you could. You ain't gotta make me breakfast in the morning. But I like it if you could. You ain't gotta make me breakfast in the morning. But I like it if you could. You ain't gotta make me breakfast in the morning. But I like it if you could.
C'était Aaron Taylor sur Calade.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessif.
Le prof Patrick.
Et il va nous faire réfléchir deux minutes. C'est le prof Patrick qu'on retrouve tout de suite en studio. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs. Bon. C'est reparti.
C'est reparti. De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Alors, tiens, je vais te donner le titre. Comme ça, ça va faire un titre un peu qui va faire réfléchir. Mon titre de ma chronique aujourd'hui, c'est « Il rêve, il et elle rêvent d'un autre monde ».
D'accord.
Ah, mystère.
Qui sont il et elle?
Voilà. Est-ce que tu sais, Mathieu, qu'en fait, il est arrivé très souvent que des découvertes scientifiques majeures soient faites quasi simultanément par des personnes qui n'ont pas de lien les unes avec les autres dans divers endroits du globe?
Oui.
Alors je te donne un exemple. Par exemple, en 1858, Charles Darwin a soudain des sueurs froides quand il lit un ouvrage d'un certain A.R. Wallace, Alfred je crois, Wallace. Je vous épargne le titre de l'ouvrage, mais c'est un ouvrage en fait qui décrit des mécanismes évolutionnistes du fait de pressions environnementales. Bref, le sujet que Darwin est en train d'étudier. Ouais. Sauf que Darwin, à l'époque, n'a écrit que 11 chapitres de son fameux ouvrage, L'origine des espèces. Alors je peux te dire que ça va suffisamment le motiver pour qu'il accélère et qu'il le termine et qu'il le publie l'année suivante, en 1859. Un autre exemple, Charles Cros, en 1877, présente le parlophone en France, à l'Académie des sciences. La même année, Thomas Edison, aux États-Unis, présente le phonographe.
Ouais.
Voilà. Donc des phénomènes de simultanéité très étonnants. Eh ben, on a assisté, dans la première moitié de cette année 2022, dans les mois d'avril, mai, juin, à un phénomène assez proche, mais pas dans le domaine scientifique, dans le domaine du monde étudiant, en fait. Et plus précisément, le monde des diplômés des grandes écoles françaises.
Ah, c'est-à-dire ?
Tout commence avec une école d'ingénieurs spécialisée qui s'appelle AgroParisTech, école d'ingénieurs spécialisée dans l'agroalimentaire. Une vidéo explosive sort sur YouTube en mai dernier qui est filmée lors de la remise des diplômes de cette école.
Ah oui.
Un groupe d'étudiants prend la parole, ils sont assez nombreux, une dizaine, et on les autorise à prendre longuement la parole. Parce qu'il faut qu'ils aient l'autorisation pour prendre la parole. Mmh. Ils font quoi ? Eh bien, ils vont casser le discours officiel, politiquement correct, de l'école. Je vous cite un extrait du tout début de leur discours, que vous pourrez retrouver sur YouTube, je mets le lien dans le podcast. « Nous ne nous considérons pas comme des talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. » Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique. Une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
Amen.
Fin de citation, et ce n'est que le début. Donc discours assez explosif.
Ah ouais, ils étaient en colère.
Et ils sont applaudis.
Ouais.
Un mois plus tard, c'est à une autre cérémonie de remise des diplômes, celle de la plus prestigieuse école d'ingénieurs française, l'École Polytechnique, que le même phénomène se reproduit. Deux jeunes femmes prennent la parole, soutenues par 50 camarades de promotion. La teneur du discours est très proche, je cite à nouveau le discours, enfin un extrait. « J'aurais pu rejoindre sans problème ce monde capitaliste que j'avais beaucoup côtoyé, accepter un poste qui me donnerait accès à tous les privilèges du polytechnicien, l'argent, le pouvoir, le prestige. J'aurais pu croire à ces promesses de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et à ces promesses de croissance verte, croire que j'allais changer les choses de l'intérieur, avant que ce ne soit le système qui change mon intérieur. » Je souhaite bon courage à ceux qui tentent cette voie, mais personnellement, je ne souhaite pas être un pion utile du système. Fin de citation. Autre moment ô combien emblématique de cette cérémonie de remise des diplômes à Polytechnique, lorsque le parrain de la promo, qui n'est rien d'autre que le PDG de Total, arrive sur scène, la moitié des élèves présents dans l'amphithéâtre lui tourne ostensiblement le dos, tandis qu'il se fait siffler par d'autres. Ambiance. Incroyable. À Sciences Po, autre grande école emblématique du système de formation des élites françaises, la direction était plus maline. Plutôt que se faire déborder par une parole libre des étudiants, elle a préféré l'encadrer. Et donc, c'est le directeur de Sciences Po lui-même qui a invité ses étudiants à, entre guillemets, réparer le monde et qui a cité le dernier rapport du GIEC.
D'accord.
Je cite rapidement le directeur de Sciences Po. « Nous ne dansons plus sous la pluie, nous subissons les orages du temps. Nous avons 3 ans seulement pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. » Fin de citation. Et puis sur scène, une étudiante a pu tenir un discours, disons, modérément révolutionnaire. Je cite un petit extrait de son discours à cette étudiante. « Alors que nous devons changer radicalement de système politique, économique et culturel, nos formations aussi doivent s'adapter au risque de contribuer elles-mêmes au problème. » Fin de citation. Donc à Sciences Po, le crash est évité, on n'a pas entendu les mots qui fâchent, genre décroissance, abattre le capitalisme, etc., etc. Même discours sous contrôle à HEC, aux études commerciales, la plus grande école supérieure de commerce française, où une étudiante a appelé ses camarades à, j'ouvre les guillemets, dire non à une banque qui propose un salaire démentiel mais dont les projets vont à l'encontre de nos convictions, fermez les guillemets. Sauf que les banques, c'est quand même la destination majoritaire des étudiants d'HEC. D'accord ? Alors voilà, morale de l'histoire. Eh bien, si on est révolutionnaire dans l'âme, on peut positiver, hein, parce que on sait en fait que pour passer d'une révolte à une révolution, il faut justement une participation des élites à la révolte populaire. Le carburant de base, c'est la révolte populaire, mais il faut une participation des élites pour allumer la mèche et transformer ça en révolution. Donc, du point de vue d'un révolutionnaire, cette prise de parole est bon signe. Mais bon, pour ma part, je vais emprunter l'analyse d'une anthropologue qui s'appelle Fanny Paris. Fanny Paris, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Les enfants gâtés, anthropologie du mythe du capitalisme responsable ». Ce livre explore comment la thématique de l'éco-responsabilité a pour fonction non seulement d'accompagner la transition écologique, énergétique, etc., mais surtout d'assurer le maintien de l'ordre social. Selon l'analyse de Fanny Paris, les enfants gâtés ont pour caractéristique de ne pas vouloir renoncer au confort de leur mode de vie. Ils n'acceptent pas l'idée d'une nécessaire diminution de la consommation. Par contre, ils sont prêts à accepter la réinvention de la consommation à travers la fameuse éco-responsabilité, à travers la croissance verte, à travers le mythe de l'innovation qui nous sauvera. D'accord ? Ce que notre auteure anthropologue, Fanny Paris, explique, c'est que cette croyance dans ces notions, c'est ce qu'elle appelle des entités irréelles, la croissance verte, l'éco-responsabilité, etc., eh bien cette croyance, elle est indispensable au maintien du système capitaliste. Consommer responsable permet de consommer toujours plus, et permet de diminuer la tension, la double contrainte, pour parler comme Gregory Bateson, que constituent les injonctions contradictoires qui sont d'un côté, il faut consommer moins pour préserver la planète, mais de l'autre côté, il faut consommer plus pour préserver le système capitaliste. D'accord ? Donc l'éco-responsabilité, c'est le truc pour réduire cette tension, en quelque sorte. Bon, mais on voit que certains étudiants ne tombent plus dans ce piège, donc ce qu'expriment au moins les étudiants d'AgroParisTech et de Polytechnique que j'ai cités, c'est qu'ils ne se rangent plus dans la catégorie des enfants gâtés. Ils remettent en cause le système économico-politique lui-même, ils appellent à d'autres chemins, à d'autres modes de vie. Au moins dans le discours, ils sont, eux, une menace pour l'ordre social. Tout reste à faire, mais c'est un bon point de départ.
Très bien. Bon, un peu d'optimisme pour une fois.
Ah ouais, mais j'essaie d'être optimiste au moins une fois sur 3 ou 4, tu vois, histoire de ne pas vraiment te faire plonger dans la dépression nerveuse la plus totale.
Merci beaucoup, prof Patrick. À bientôt.
À plus. That it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Les Beatles sur Kaled avec le titre Revolution. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Kaled. D'ici trois petites minutes, vous retrouvez vos pages d'information quotidiennes, le journal de RFI et le journal local de Sylvie Rosier à 13h10. Et on se donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Kaled. On se quitte en douceur. Voici 10cc Dreadlock Holiday.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
My harvest is the best, and if you try it, you'll like it.